mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Dans cet extrait de « Des choses cachées depuis la fondation du monde », René Girard explique comment le martyr d'Étienne est, à la suite de la passion du Christ, une dénonciation du mensonge et de la violence, du sacrifice, du bouc émissaire. René Girard. Dans les évangiles de Matthieu et de Luc, il est un groupe de textes qui figurait naguère sous le titre de « Malédiction contre les scribes et les pharisiens ». L'abandon de ce titre est lié à la gêne que provoque la lecture habituelle de ces passages. Sur le plan de la lettre, assurément, ce titre n'est pas faux, mais il restreint tout de suite la portée des accusations proférées par Jésus à ses interlocuteurs immédiats. Que ceux-ci soient directement visés, c'est certain, mais un examen attentif révèle que quelque chose de beaucoup plus vaste est en jeu. La malédiction la plus terrible et la plus significative vient à la fin du texte, et chez Matthieu et chez Luc. Voici d'abord le texte de Matthieu, chapitre 23, versets 34 à 36. « Voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous en flagellerez dans vos synagogues et pourchasserez de ville en ville pour que retombe sur vous tout le sang des justes répandu sur la terre. » Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela va retomber sur cette génération. » René Girard reprend. Ce texte nous laisse entendre qu'il y a eu beaucoup de meurtres. Il n'en cite que deux, celui d'Abel, le premier dont il est question dans la Bible, et celui plus obscur d'un certain Zacharie. Dernier personnage assassiné dont il est fait mention dans le second livre des Chroniques, c'est-à-dire dans la Bible tout entière, telle que Jésus la lisait. La mention de ce premier et de ce dernier meurtre tient lieu visiblement d'une énumération plus complète. Les victimes intermédiaires sont toutes sous-entendues. Le texte a un caractère récapitulatif, et il ne peut pas se limiter à la seule religion juive, puisque c'est aux origines de l'humanité. C'est à la fondation du premier ordre culturel qu'on remonte avec le meurtre d'Abel. Le texte dit aussi très explicitement « tout le sang des justes répandu sur la terre ». Il semble donc que le genre de meurtre, dont Abel constitue ici le prototype, ne soit pas limité à une seule région du monde. Il s'agit d'un phénomène universel dont les conséquences vont retomber non seulement sur les pharisiens, mais sur toute cette génération, c'est-à-dire sur tous les contemporains des évangiles et de leur diffusion. Le processus qui mène directement des malédictions à la passion se retrouve sous une forme aussi ramassée que saisissante, dans un texte qui n'est pas évangélique stricto sensu, mais qui est aussi proche que possible de l'une au moins des rédactions évangéliques. Il s'agit des Actes des Apôtres. Le texte auquel je pense reconstitue l'ensemble formé par les malédictions et la passion sous une forme si ramassée qu'on peut voir en lui une véritable interprétation du texte évangélique. Il s'agit du discours d'Étienne et de sa conséquence. La conclusion de ce discours au sang édrin est si déplaisante aux auditeurs qu'elle provoque immédiatement la mort de celui qui l'a proféré. Les dernières paroles d'Étienne, celles qui déclenchent la rage meurtrière de son public, constituent la répétition pure et simple des malédictions contre les pharisiens. Au meurtre déjà nommé par Jésus s'ajoute, bien entendu, le meurtre de Jésus lui-même, qui est maintenant chose accomplie lui aussi, et qui récapitule mieux que tous les discours possibles la réalité du meurtre fondateur. C'est donc bien l'ensemble constitué par la prophétie et son accomplissement que dégagent à nouveau les paroles d'Étienne. C'est le rapport de cause à effet entre la révélation qui compromet le fondement violent et la nouvelle violence qui expulse cette révélation pour rétablir ce même fondement. René Girard cite maintenant le 7e chapitre des Actes des Apôtres, versets 51 à 58. « Nuque raide, oreilles et cœurs incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit-Saint. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils point persécuté? Ils ont tué tous ceux qui prédisaient la venue du juste, celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner, vous qui avez reçu la loi et ne l'avez pas observée. À ces mots, leur cœur frémissait de rage et ils grinçaient des dents contre Étienne. Tout empli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. « Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et comme un seul homme se précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. René Girard reprend. Les paroles qui font retomber sur les vrais coupables leur violence sont si insupportables qu'il faut fermer définitivement la bouche à celui qui parle. Et pour ne pas l'entendre tant qu'il demeure capable de parler, les auditeurs se bouchent les oreilles. Comment douter ici que c'est pour rejeter un savoir intolérable que l'on tue? Et ce savoir, c'est celui du meurtre lui-même. Tout le processus de la révélation évangélique et de la crucifixion se reproduit ici dans une clarté exceptionnelle. Il faut remarquer le mode d'exécution d'Étienne, la lapidation, réservée chez les Juifs, comme chez d'autres peuples, aux coupables des plus grands crimes. Comme dans toutes les formes sacrificielles, il s'agit d'abord de reproduire le meurtre fondateur pour en renouveler les effets bénéfiques, ici pour effacer les périls où le blasphémateur plonge la communauté. La répétition de ce meurtre est un acte dangereux qui pourrait ramener la crise que l'on veut éviter. Une première précaution contre la pollution violente consiste à interdire toute exécution rituelle à l'intérieur de la communauté. C'est pourquoi la lapidation d'Étienne se déroule hors de l'enceinte de Jérusalem. Mais cette première précaution ne suffit pas. La prudence suggère d'éviter tout contact avec la victime. Comment combiner cette première exigence avec une autre exigence majeure, qui est la reproduction aussi exacte que possible du meurtre originel? Une reproduction exacte implique la participation unanime de la communauté. Comment faire pour que tout le monde frappe la victime sans que personne ne se souille à son contact? Il est clair que c'est pour résoudre ce problème délicat qu'on recourt à la lapidation. Comme tous les modes d'exécution à distance, la lapidation satisfait cette double exigence rituelle. Le seul assistant dont le nom figure dans le texte est Saul de Tarse, le futur Paul. C'est aussi le seul, semble-t-il, à ne pas jeter de pierre. Mais le texte nous assure qu'il est de cœur avec les meurtriers. Saul, lui, approuvait ce meurtre. Sa présence, donc, ne rompt pas l'unanimité. Le texte précise que les assistants se précipitent sur Étienne comme un seul homme. Cette indication d'unanimité aurait une valeur quasi technique sur le plan du rite, s'il ne s'agissait pas ici de tout autre chose que d'un rite. C'est spontanément que se reforme contre Étienne l'unanimité, qui dans le rite a un caractère obligatoire et prémédité. Le caractère précipité de cette lapidation, le fait que les procédures énumérées dans le texte du Deutéronome ne soient pas toutes observées, a conduit de nombreux commentateurs à juger l'exécution plus ou moins illégale. Voici par exemple ce qu'écrit Johannes Munk dans son édition des Actes. Est-ce que la comparution devant le Sanhédrin et la lapidation qui a suivi constituent un vrai procès et une exécution légale? Nous ne le savons pas. Le caractère improvisé et passionné des événements qui sont relatés pourrait suggérer qu'il s'agissait de quelque chose d'illégal. Munk compare les dernières paroles d'Étienne à une étincelle qui déclenche une explosion. Le fait qu'on ait affaire ici et à un mode d'exécution ritualisé et à une décharge irrésistible de fureur collective est hautement significatif. Pour que ce double statut soit possible, il faut que le mode rituel d'exécution coïncide avec une forme possible de la violence spontanée. si le geste rituel peut se déritualiser en quelque sorte et devenir spontané sans changer vraiment de forme, on peut supposer que la métamorphose s'est déjà produite dans l'autre sens. La forme d'exécution légale n'est que la ritualisation d'une violence spontanée. La scène des Actes des Apôtres est une reproduction qui révèle et qui souligne le rapport entre les malédictions et la passion. Et ce que cette scène est aux textes évangéliques commentés plus haut, ces textes eux-mêmes le sont à la passion. Étienne est le premier de ceux dont il est question, on l'a vu, dans les malédictions. Nous avons déjà cité Matthieu. Voici maintenant le texte de Luc qui dit lui aussi la fonction exacte de ce martyr, qui est bien une fonction de témoignage. En mourant comme meurt Jésus, et pour les mêmes raisons que lui, les martyrs multiplient les révélations de la violence fondatrice. René Girard cite Luc, chapitre 11, versets 49 à 50. Et c'est bien pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils en tueront et persécuteront, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui aura été répandu depuis la fondation du monde. » René Girard reprend « Il ne faut pas interpréter ce texte de façon étroite. Il ne s'agit pas de dire que les seules victimes innocentes, désormais, sont des confesseurs de la foi. Il faut comprendre qu'il n'y aura pas de victimes, désormais, dont la persécution injuste ne finisse par être révélée en tant que telle, car aucune sacralisation ne sera plus possible. Aucune production mythique ne viendra plus transfigurer la persécution. » Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.